RFI 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Arthur Ponchelet.
Et à la une ce matin, un accident lié à la météo ou bien une attaque des rebelles du FLA. Les versions divergent, mais une chose est sûre, un avion de l'armée malienne s'est écrasé hier à Gao. Et ce alors que les rebelles annoncent lancer une offensive générale. Nouvelle journée de manifestation du PDCI-RDA ce samedi en Côte d'Ivoire. Les militants réclament encore et toujours la réintégration de leur chef sur la liste électorale. Dans ce journal aussi, des pluies diluviennes font des victimes à Kinshasa et Brazzaville. Le Maroc mise sur le salement pour faire face à une nouvelle année de sécheresse. Reportage à Dakar, dans les allées du festival Matsuri. Rendez-vous dédié à la culture japonaise et puis les sports dans quelques minutes. On revient sur le début de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis et le match nul cette nuit entre l'Al Ahly du Caire et l'Inter Miami. Que s'est-il passé à Gao, au Mali, hier matin, alors que les affrontements ont éclaté entre les rebelles du FLA d'un côté et la coalition des forces armées maliennes, aidée des paramilitaires de l'Africa Corps de l'autre, le Front de Libération de l'Azawad est formel. Ses membres ont abattu un avion de la coalition. Faux, répondent les forces armées maliennes, qui elles parlent d'un accident lié à la météo. Serge Daniel, ce qui est sûr, c'est qu'un avion a bel et bien été détruit.
L'avion s'est écrasé avant de prendre feu, non loin de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Gao, principale ville du nord du Mali. C'est un Sukhoi de fabrication russe. Les deux pilotes, également russes, sont sains et saufs. Sur des vidéos authentifiées, on aperçoit des combattants russes de Africa Corps, armes en bandoulière, surveillant les restes de l'aéronef. Selon l'armée malienne, les conditions météorologiques défavorables sont responsables de la chute de l'appareil. Faux, répondent les rebelles maliens du Front de Libération de l'Azawad. Ils affirment avoir abattu plutôt l'avion. Le porte-parole du FLA, Mohamed El Maouloud Ramadan.
Nous confirmons que c'est le FLA qui a abattu l'avion d'aujourd'hui. Voilà, c'est les tirs du FLA qui ont causé la chute de cet avion.
Il ajoute que sur le terrain dans le nord du Mali, les rebelles du Front de Libération de l'Azawad lancent une offensive général.
Le moment est venu de reprendre tous les territoires de l'Azawad, c'est-à-dire les cinq régions, Gao, Kidal, Tombouctou, Menakaï, y compris les cercles et les zones d'ossement qui les composent.
L'armée malienne, de son côté, dans ses derniers communiqués publiés, affirme contrôler la situation sur toute l'étendue du territoire national. À Serge Daniel, Dakar, RFI.
Une attaque particulièrement violente au Nigeria ce week-end. Des hommes armés ont fait irruption dans le village de Yelewata, dans le centre du pays. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Bilan, au moins 100 morts. La région, l'état de Benue, est l'épicentre des tensions entre éleveurs peuls et agriculteurs sédentaires. Tensions qui ont fait près de 7000 morts en 2 ans, selon Amnesty International. Ils sont toujours mobilisés et ne comptent pas s'arrêter là. En Côte d'Ivoire, les militants du PDCI-RDA ont à nouveau manifesté hier, rassemblement, pour réclamer, encore une fois, la réintégration de leur chef, Tidiane Thiam, à la liste électorale. Il en a été radié suite à une décision de justice en avril dernier. Il est donc inéligible pour l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Et cela ulcère les manifestants. Reportage Binta Diagne.
À travers cette marche, les militants du PDCI veulent exprimer leur défiance vis-à-vis du processus électoral, mais aussi leur colère de voir leur leader Tidiane Thiam radié de la liste électorale. Estimant que sa sécurité n'est pas garantie, ce dernier mène son combat depuis l'étranger, depuis déjà près de 3 mois. Sur le terrain, ses partisans ont remis une lettre à la commission électorale indépendante, exigeant sa réintégration dans la course. Sylvestre Emou, le secrétaire exécutif du PDCI-RDA.
Nous dénonçons avec force la radiation arbitraire et injustifiée du président Tidiane Thiam, ainsi que des autres leaders majeurs de l'opposition. Nous considérons ces radiations et ou non inscriptions sur la liste électorale comme des manœuvres dolosives pour éliminer des adversaires politiques importants de notre pays, au moyen d'artifices juridiques inopérants.
Le PDCI-RDA réclame une fois de plus une nouvelle révision de la liste électorale avant l'élection du mois d'octobre et un dialogue politique, une démarche que dénonce le parti au pouvoir. Cette semaine, lors d'une conférence de presse, le RHDP a pointé du doigt des manœuvres dilatoires. L'objectif de l'opposition n'est pas d'aller aux élections, affirme Kobenan Kwasi Adjoumani, le porte-parole du RHDP. Selon lui, l'opposition mise sur la non-tenue du scrutin scrutin présidentiel dans les délais constitutionnels pour, je cite, réclamer une transition en renvoyant les élections au calende grec. Bintadian Abidjan, RFI.
La Côte d'Ivoire, c'est aussi cet accident de la route. Hier, un camion et un bus sont entrés en collision sur l'autoroute entre Agboville et Abidjan. Nouveau drame de la route après celui de vendredi où 8 personnes ont été tuées dans la collision, là cette fois entre une voiture et un camion près de Korogo. Chaque année, entre 1000 et 1500 personnes meurent sur la route dans le pays. L'actualité en République démocratique du Congo est d'abord les négociations de paix qui se poursuivent aux États-Unis. Pour la première fois depuis le début de la médiation américaine, délégués rwandais et congolais se sont assis autour d'une même table. Ils planchent sur le deuxième projet d'accord, accord dont on vous a parlé et dont les détails sont à lire sur RFI.fr. Initialement prévu pour ces jours-ci, là, à la mi-juin, la signature d'un accord de paix pourrait finalement intervenir à la fin du mois de juillet. C'est en tout cas ce qu'indique une source américaine, la RDC. Ce sont aussi ces inondations qui ont fait des victimes ce week-end. Des pluies diluviennes ont frappé Kinshasa dans la nuit de vendredi à samedi. Les dégâts sont nombreux dans la capitale, mais aussi à Brazzaville, au moins 19 morts. Et ce, alors que la région est entrée depuis plus de deux semaines dans une saison sèche. Alors, comment expliquer ces précipitations soudaines? Écoutez l'analyse d'Augustin Tagiasabo. Il est le chef du Centre météorologique national de l'Agence congolaise de météorologie et de télédétection par satellite.
Cette pluie nous vient de l'extérieur, du vent nord-ouest et venant du golfe de Guinée qui est en train de pénétrer le continent vers la partie ouest. Il traverse le Gabon, le Congo-Brazzaville et puis il atteint la ville province de Kinshasa. Il nous amène des amas nuagés qui apporte des masses de pluie. C'est un phénomène extraordinaire pendant cette période et passager. Donc, nous sommes en train de surveiller et combien de temps ça peut prendre parce que si plus le flux de vent du nord-ouest est en train de pénétrer, nous risquerons d'avoir de pluie durant toute la saison.
Propos recueillis par Pascal Moulégois, notre correspondant à Kinshasa. Plus tôt cette semaine, c'est l'Afrique du Sud qui était victime d'inondations. Le bilan s'est encore alourdi. Hier, 86 morts dans la province du Cap-Oriental dans le sud du pays. Le président Cyril Ramaphosa s'est rendu sur place vendredi pour se rendre compte des dégâts. Il pointe du doigt le réchauffement climatique. Au Maroc, au contraire, la pluie manque. Le royaume entame sa 7e année de sécheresse. Et pour y faire face, le pays dispose de 17 usines de dessalement, 4 sont en construction. Et ce vendredi, les autorités ont annoncé 9 unités supplémentaires pour transformer l'eau de mer en eau douce. Elles doivent permettre au secteur agricole notamment de s'adapter au réchauffement climatique. Mais ce n'est pas sans danger, Simon Rosé, car cette technologie est très énergivore et polluante.
L'objectif, c'est de parvenir à près de 2 milliards de mètres cubes d'eau de mer dessalée d'ici 2030. De quoi pallier le manque de précipitations que connaît le Maroc depuis plusieurs années et venir en aide à un secteur agricole frappé de plein fouet par cette sécheresse hors norme. Si le dessalement est l'une des rares solutions disponibles pour le royaume, cette technologie n'est cependant pas sans conséquences. Retirer le sel pour rendre l'eau douce demande beaucoup d'énergie. Dans le monde, les 20 000 stations similaires reposent ainsi majoritairement sur le pétrole, exacerbant les émissions de gaz à effet de serre, responsable de la situation à laquelle on essaie pourtant de s'adapter. Le Maroc promet cependant d'utiliser l'électricité renouvelable produite dans le sud du pays. Cela nécessitera la construction d'une ligne électrique de plus de 1000 km pour tout relier. Autre écueil de cette technologie, ses rejets massifs. Le sel retiré de l'eau de mer y est relâché, mélangé à de nombreux produits chimiques utilisés dans le processus. Un cocktail qui affaiblit la capacité de l'océan à capter des gaz à effet de serre, ce qui aggrave là aussi le réchauffement climatique.
Simon Rosé du service environnement d'RFI. Le réchauffement climatique, mais aussi la crise sécuritaire et la baisse de production d'or, autant de facteurs qui n'ont pas empêché l'économie malienne d'afficher une certaine résilience. C'est en tout cas ce que dit le FMI qui achève une mission sur place. Le Fonds monétaire international table sur une croissance de 5% cette année et émet un certain nombre de recommandations comme l'amélioration de la gestion budgétaire. Il y a un secteur qui se porte particulièrement bien. Là, ce n'est pas au Mali, mais à Dakar, au Sénégal, que ça se passe. Des centaines de jeunes en cosplay, déguisés en personnages d'animés japonais, se réunissent tout le week-end. C'est le festival Matsuri, rendez-vous dédié à la culture japonaise, calligraphie, manga, jeux vidéo ou encore gastronomie. Les fans sont de plus en plus nombreux à baigner dans cet univers. Reportage à Dakar, Juliette Dubois.
Awa et Mathilde sont devenues amies grâce à leur passion du Japon.
On était dans la même classe, mais genre on ne se parlait pas. Un jour, j'ai su qu'elle regardait les animés comme moi. Depuis
voilà,
ça,
on s'est liés d'amitié. Voilà.
C'est ensemble que ces deux étudiantes en histoire sont venues au festival Matsuri. Elles ont dévalisé le stand de nourriture japonaise.
On a acheté des mochi, des nouilles, des baguettes aussi. Bon, c'est l'événement de l'année. Hein.
Au festival, chacun s'habille comme il le souhaite. Obi est venu en tenue de boxeur. Ce membre du club japonais de Dakar interprète Hajime no Hippo, un personnage de dessin animé. Obi se réjouit que la culture pop asiatique se démocratise au Sénégal.
Avant, c'était un peu minimisé, parce que comme on dit au Sénégal, Yofu Mickey en Wolof, c'est genre pour dire les affaires des Mickey, de Disney, là, c'est pas sérieux, c'est des enfants. Les parents, les adultes disaient que ouais, tu perds ta vie, tu vas jamais rien faire avec. Mais aujourd'hui, je suis content que nous avons pu prouver le contraire, parce que cette passion m'a donné le talent d'apprendre le japonais, m'a donné la chance de rencontrer une merveilleuse personne à l'ambassade du Japon.
Aujourd'hui, Obi donne même des cours de japonais. Un peu plus loin, Ami Diak crée des mangas sénégalais avec les Diata Twins. Les codes de dessin et des histoires romantiques sont là, mais adaptés à un public local.
J'essaie d'intégrer notre quotidien, notre vie quotidienne ici au Sénégal. Par exemple, il y a des histoires sur la Tabaski, Tamkharit, les Nawetan, etc. Et donc, au moins, les Sénégalais auront leur propre histoire à eux-mêmes.
Chaque année, les festivals de pop culture japonaise comme Matsuri attirent des centaines de Sénégalais venus de tout le pays. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Et le festival Matsuri continue à Dakar toute la journée au monument de la Renaissance africaine à Madagascar. Pas question de manga, mais de tourisme. La grande île accueille jusqu'à ce soir son salon annuel du tourisme le plus grand de l'océan Indien. L'occasion pour le président de réitérer son objectif. 1 million de touristes en 2028 contre 315 000 l'an dernier. 5 hôtels, 5 étoiles sortiront de terre dans les prochains mois, a promis jeudi le président Andjad Zoel. Annonce critiquée par de nombreux Malgaches sur les réseaux sociaux qui jugent que ce n'est pas prioritaire à l'heure où les délestages se multiplient dans la capitale. On en parle sur notre site. Vous connaissez l'adresse www.rfi.fr. Julien Coquelorem.
Merci Arthur Ponchelet. Très bon dimanche à vous.
Et vous aussi.